Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette merveilleuse série concernant le vainqueur. Et nous sommes à la deuxième étude. Nous aurons trois sujets cette fois-ci. Premièrement, les afflictions et les mises à l'épreuve. Deuxièmement, Christ et son Église. Et troisièmement, l'Église étrangère. Chers amis, pourquoi tout n'est-il pas simple une fois que nous devenons chrétiens? Après tout, nous sommes maintenant les enfants de Dieu et il y a la capacité de rendre toute chose absolument merveilleuse pour nous, plus de besoins, plus de problèmes et plus d'afflictions. Mais pour une raison ou pour une autre, eh bien, la vie chrétienne n'est pas comme cela, comme nous le découvrons vite. De fait, pour beaucoup de personnes, après qu'elle soit devenue chrétienne, les choses deviennent plus difficiles qu'elles ne l'étaient auparavant. Souvent, lorsque nous considérons un problème, nous voyons le fruit, mais nous ne pouvons discerner la racine du problème. En termes de ce que Jean-Baptiste parlait dans Saint Matthieu chapitre 3 verset 8 à 12. Le fruit se voit facilement, mais la racine n'est pas si facile à voir. D'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de discerner la racine afin qu'elle puisse être traitée de façon appropriée. La Bible nous donne un nombre de raisons pour lesquelles les chrétiens se trouvent devant des afflictions et des mises à l'épreuve. Aussi, nous allons voir ensemble les huit thèmes qui sont les plus importants. Nous commencerons par le premier thème, la cause du péché. Voyez-vous, parfois, pas toujours, les problèmes devant lesquels nous nous trouvons sont le résultat du péché, soit directement à cause de notre propre péché ou à cause des péchés des autres personnes. Aucun de nous ne vit isolé. Pour cette raison, les mauvaises actions faites par d'autres personnes se peuvent bien d'avoir un effet défavorable sur nous. Ceci s'applique particulièrement dans les domaines de l'hérédité, l'éducation parentale et de certaines expériences traumatisantes. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16, par exemple, nous dit que si nous souffrons ou sommes malades, nous devrions prier, nous devrions confesser nos péchés et demander que Dieu nous guérisse. La maladie et la souffrance peuvent être le résultat du péché ou elles peuvent avoir d'autres raisons. Toutefois, si nous sommes malades ou si nous souffrons, eh bien, une des choses que nous devrions faire est de nous assurer que nos vies sont justes devant Dieu, que nous avons demandé à Dieu de sonder nos cœurs et de nous laver de tout péché et iniquité, évidemment, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à notre guérison. Notez, et c'est important, Le psaume, chapitre 139, versets 23 à 24. Dans certaines versions allemandes et anglaises, on peut aussi noter le psaume 138, versets 23 à 24, ainsi que la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Bien sûr, même si nous sommes en bonne santé et ne souffrons pas, nous devrions toujours nous repentir et demander le pardon de Dieu si nous péchons, afin que cela ne soit pas la raison si nous tombons malades ou devons faire face à la souffrance. Sachez que Dieu juge et il punit le péché. Surtout, et oui, surtout, si nous sommes chrétiens, alors la raison de la discipline de Dieu dans nos vies quand nous péchons, quand nous nous rébellons ou sommes désobéissants et parce que il nous aime, il doit bien entendu nous discipliner. Hébreux chapitre 12, versets 3 à 14, notez bien cela. Oui, voyez-vous, tout bon parent va naturellement discipliner leurs enfants, surtout quand ils agissent très mal. C'est une preuve, il me semble, de leur amour, car un parent qui n'aime pas ne s'en préoccupe pas, et pour cette raison ne disciplinera jamais. Ainsi, si Dieu nous corrige pour ce que nous n'en faisons qu'à notre tête, et même souvent, nous devrions en être reconnaissants. C'est une preuve de son amour et de l'évidence qu'il nous reconnaît comme étant ses enfants. L'idéal, bien sûr, est de ne pas pécher en premier lieu ou de s'en repentir immédiatement, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 32, Saint Paul souligne le danger de l'hypocrisie si nous n'examinons pas nos vies devant Dieu et si nous ne venons pas à la sainte table avec des mains propres et un cœur pur et lavé par le sang de l'agneau. Jésus-Christ dit que c'est la raison pour laquelle beaucoup sont faibles et malades, et que certains même sont morts, parce qu'ils furent légers dans leur attitude envers le péché et à propos du jugement de Dieu à ce sujet. Voyez-vous, une chose importante à se rappeler, c'est que nous avons affaire avec notre propre péché. Ce n'est pas notre travail de montrer les autres du doigt et de les condamner. Nous avons besoin d'examiner nos propres vies tout d'abord, surtout, et de nous assurer que nous sommes justes avec Dieu. Là, notez s'il vous plaît, Saint Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Deuxièmement, il se peut que ce soit une attaque carrément de Satan. Il se peut que les afflictions et les mises à l'épreuve auxquelles nous faisons face viennent du malin. Ceci est spécialement vrai quand nous savons que nous marchons avec le Seigneur, cherchant à lui être obéissant et à le servir. Satan déteste ceux qui sont totalement dévoués à Dieu. Il fera tout ce qu'il peut pour leur faire opposition, pour les décourager et les amener à renoncer carrément. C'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de nouveaux chrétiens trouvent d'abord la vie dure, si Satan peut les décourager ou les désarçonner au point qu'ils abandonnent, alors il a gagné une victoire considérable. Voyez-vous, nous avons besoin de surveiller, de garder, de guider et d'encourager avec précaution les nouveaux enfants du Seigneur. Dans le Christ, ils sont très vulnérables, cela se comprend, très vulnérables à toutes les attaques de l'ennemi. Les chapitres 1 et 2 du livre de Job, très intéressant, devraient être lus dans tout ce contexte, car Job était un homme vraiment pieux, un homme qui aimait l'Éternel. Je pense qu'il y en a peu qui l'ont aimé comme lui. Les épreuves, les souffrances, les maladies et pertes auxquelles il a fait face n'étaient pas à cause de son péché, pas du tout, mais à cause de sa piété. Ça, c'est difficile à comprendre. Cependant, voyez-vous, dans tout ceci, il n'a jamais blâmé Dieu, jamais, jamais. Il n'y a jamais fait de reproche. Un point très important qui se dégage de ces chapitres du livre de Job est que malgré le fait que Dieu permit à Satan de tenter et de mettre Job à l'épreuve, Dieu fixa les limites de tout cela, car il connaissait la capacité de Job à sortir victorieux, et il défendit à Satan de toucher à sa vie. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu a toujours autorité absolue sur la vie de ses enfants. Satan ne peut jamais faire ce que Dieu, dans son amour parfait, sa sagesse et son pouvoir ne permet pas. Alléluia. Donc, il se peut que nous ne comprenions pas, mais tel Job, nous avons besoin d'arriver à ce point de la foi où, lui, Job, disait ceci. S'il me tue, l'Éternel, je plaiderai quand même ma cause devant lui. Job, chapitre 13, verset 15. Quelle foi merveilleuse de la part d'un homme qui avait été fortement tenté même par sa femme. Job nous enseigne que tout est sous le souverain contrôle de Dieu et que rien n'arrive que Dieu ne permette. La vraie foi dit ceci. Seigneur, je ne comprends pas, mais je continue à avoir confiance totale en toi. Troisièmement, c'est pour nous garder humbles et dépendants de Dieu. L'apôtre Paul a fait aussi l'expérience d'un dilemme similaire lorsque, en dépit de tout ce qu'il avait fait pour le Seigneur, il lui restait une écharde dans la chair, un messager de Satan, un ange démoniaque qui l'affligeait et le gardait humble. Dieu rappela à l'apôtre Paul que sa puissance se déploie dans la faiblesse, car lorsque nous sommes faibles, nous voyons sa puissance. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Il pourrait être très facile de devenir indépendant de Dieu, et la plupart des gens le sont, ou du moins pensent qu'ils le sont. En fait, l'air même que nous respirons, la nourriture que nous mangeons et l'eau que nous buvons devraient être un rappel constant que nous sommes tous extrêmement dépendant de Dieu pour le strict essentiel de la vie. Si Dieu devait cacher de nous, enlever de nous la nourriture pendant 60 jours, l'eau, potable ou pas, pendant 6 jours, et l'oxygène pendant 6 minutes, on peut penser là au chiffre 666, alors nous serions tous morts, absolument. Il n'y a que les fous qui disent « je peux vivre sans Dieu ». Les afflictions auxquelles nous faisons face devraient d'autant plus nous encourager à chercher Dieu et à chercher à demander son aide. Quatrièmement, pour nous faire mûrir. Donc, les afflictions et les mises à l'épreuve font partie de ce qui nous fait mûrir. Tout comme un bébé ou un jeune enfant mûrit en faisant face constamment à de nouveaux tests et épreuves, parler, marcher, se nourrir, etc., nous grandissons et nous mûrissons de la même façon à travers les situations difficiles auxquelles nous faisons face et les victoires que nous achevons avec l'aide de Dieu. Si nous ne faisons face à aucune difficulté, nous pourrions devenir très apathiques et demeurer très immatures. Les défis devraient nous faire nous élever en Dieu et devenir les hommes et les femmes que Dieu désire que nous soyons. Chaque fois que nous faisons face à une nouvelle affliction, recherchons l'aide de Dieu et voyons ses réponses à nos prières. Nous sommes encouragés et nous arrivons de beaucoup plus près à la maturité. Dieu ne veut pas que nous restions à jamais des novices. Il veut des fils et des filles qui sont matures, semblables au Christ, selon Hébreux chapitre 5, verset 11, et le chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 5, verset 3 à 5, nous dit « Nous nous glorifions jusque dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. La patience éprouve la fidélité, et la fidélité éprouvée, elle produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. De façon similaire, Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous dit « Considérez que c'est une joie totale quand vous êtes en butte à des épreuves de toute espèce, sachant que l'épreuve de votre foi produit la constance, la ténacité, mais il faut que la constance parachève son œuvre, et ceci afin que vous soyez parfaits et accomplis, c'est-à-dire matures, sans aucune défaillance. » Cinquièmement, la mise à l'épreuve de notre foi. Les afflictions, les difficultés et l'opposition testent notre foi. Non seulement cela, mais si l'on leur fait face de la bonne façon, en Dieu, ces épreuves purifieront notre foi afin qu'elle en sorte comme de l'or pur. L'or est à la fois purifié et éprouvé par le feu. Les scories, les impuretés, le rebut, sont brûlés ou enlevés de la surface, tandis que l'or pur demeure purifié. Elle demeure purifiée d'autant plus par le feu. Et pour cette raison, l'apôtre Pierre nous dit que nous devrions nous réjouir, oui, nous réjouir quand nous sommes éprouvés, car cela en vaut la peine à la fin. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 6, et chapitre 4, verset 12 à 13. Donc, n'importe quel bon athlète sait très bien que plus vous pratiquez et plus vous êtes mis à l'épreuve, testé en quelque sorte, plus solide et meilleur vous devenez. Il se peut que cela fasse mal sur le moment, ça c'est vrai. Il se peut que cela coûte beaucoup, mais le résultat final en vaut vraiment la peine. Il y a une grande différence entre être puni pour nos péchés et être mis à l'épreuve pour notre foi. Par conséquent, il est très important que nous recherchions Dieu et que nous lui demandions ce qu'il est en train de faire afin que nous puissions nous repentir ou endurer selon ce qui est en train de se passer. Sixièmement, pour nous rendre plus fructueux, car chaque arbre qui porte le fruit est émondé afin qu'il en porte encore davantage, selon saint Jean, chapitre 15, verset 2. L'émondage supprime le bois mort, le bois malade, le bois faible. Il fait que la vigne ou l'arbre produise encore davantage et de meilleurs fruits. Nous avons tous du bois mort qui a besoin d'être coupé. Jésus-Christ, le propriétaire du vignoble, sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il émonde nos vies. Et de nouveau, tout comme la chirurgie, il se peut que cela soit douloureux et que cela soit désagréable sur le moment. Il se peut même que nous ne voulions pas que cela arrive, mais si nous considérons le fruit à venir, nous réaliserons que tout cela vaut bien la peine. Dieu a incontestablement toujours, absolument toujours raison. Et de nouveau, ceci est la preuve de l'amour de Dieu pour nous et le fait qu'il n'a pas renoncé à notre sujet. Il y a donc une grande différence entre émonder la vigne porteuse de fruits et l'abattre, abattre la cognée à la racine de l'arbre mauvais et de le couper entièrement. Saint Matthieu chapitre 3 verset 10. Septièmement, pour nous mettre à même de nous identifier, d'avoir de la compassion et de réconforter les autres. Oui, en effet, les afflictions, les mises à l'épreuve et les difficultés auxquelles nous faisons face, d'autres personnes y font face elles aussi. Voyez 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. La raison pour laquelle Dieu ne soustrait pas les chrétiens au problème est que tout d'abord, il veut que nous devenions capables de les vaincre et par la suite que nous aidions les autres dans leurs besoins. Comme les chrétiens, oui, comment les chrétiens pourraient-ils s'identifier aux difficultés des non-chrétiens si Dieu constamment nous soustrayait de tout cela dans nos propres vies? Nous devons donc d'être authentiques dans notre témoignage. Ça, c'est important. Nous avons besoin de connaître et de faire l'expérience des blessures et des difficultés des autres si nous devons être capables de nous identifier avec eux. et de les réconforter et de les conseiller. Il n'est de meilleur professeur que l'expérience. C'est autre chose que simplement la théorie. Donc, nous vivons, chers amis, dans un monde réel, et non pas superficiel ou virtuel. Un monde rempli de péchés, de blessures, d'injustices, de douleurs et de maladies, de chagrins, de désillusions, on peut dire, de déceptions, et ainsi de suite. Donc, Dieu permet à ses enfants de faire face à ces choses afin qu'ils puissent aider les autres sur tout cela, et en tant de besoin, de vraiment être capable de pouvoir pratiquer cette aide. Mais nous y faisons face avec Dieu et nous ne sommes pas seuls. Ça, c'est important à savoir. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4 nous dit que Dieu de tout réconfort qui nous réconforte dans toutes nos tribulations afin que par le réconfort que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions réconforter les autres, et ceci en quelque tribulation que ce soit. En d'autres mots, accepter le réconfort de Dieu dans nos moments difficiles et passer ce réconfort aux autres dans leurs moments difficiles, c'est ça que nous devons faire. Et les afflictions devraient réunir les gens pour que, enfin, qu'ils puissent se soutenir et s'encourager les uns les autres et fonctionner comme un vrai corps de Christ. Notez Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Et huitièmement, il n'y a que Dieu qui sache toutes choses. Enfin, quelquefois, les chrétiens sont éprouvés de façon qu'ils ne peuvent pas expliquer le pourquoi. Mais il n'y a que Dieu dans son amour et dans sa sagesse parfaite et infinie qui sait tout cela. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Faisons-lui donc confiance. Probablement, au commencement du mois, notre ami Job n'avait pas la moindre idée du pourquoi qu'il souffrait et qu'il était ainsi tenté, même lorsque sa femme lui a dit de carrément maudire Dieu et de mourir. Et ceci pour mettre fin à ses souffrances. Quel bon conseil, cette aimable épouse. J'en suis pas tellement sûr. Donc, la foi, c'est de ne pas savoir. Mais, c'est de continuer malgré tout à croire. Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 19, l'exprime de façon magnifique lorsque il est dit dans ce passage que quoique le figuier ne bourgeonne pas et que d'autres catastrophes se produisent, cependant je me réjouirai dans le Seigneur et je trouverai ma joie dans le Dieu de mon salut. Yahvé, mon Seigneur. C'est Yahvé, mon Seigneur, qui est ma force. Donc, nous, Dieu nous accorde la force, croyez-moi, de corriger ce qui est mal et d'en être victorieux quand nous sommes attaqués par l'ennemi, d'être purifiés et de porter plus de fruits lorsque nous sommes mis à l'épreuve et émondé, et d'avoir la foi de croire en lui, même quand tout le reste paraît désastreux. Notre deuxième étude, c'est Christ et son Église. En effet, il existe peu de sujets plus merveilleux pour la contemplation que la relation que notre Seigneur a établie entre Dieu et son Église. Et cela n'est montré davantage que dans la position responsable dans laquelle il l'a placée pendant son absence. Examinons ceci dans un seul de ses aspects. C'était le jour de la résurrection. Les hommes qui devaient être les témoins de cette résurrection étaient tous présents à l'exception d'un seul. L'énonciation de la bénédiction « La paix soit avec vous » avait été donnée. La joie du cœur qui l'accompagne toujours avait suivi. La bénédiction fut donc répétée et avec elle l'ordre d'envoi. Dans Saint Jean, chapitre 20, verset 21, il est dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » C'est la remarque d'un éminent s'apparentant à son érudition et à son amour de la vérité que l'Église est davantage redevable aux petits mots de la Bible, à ses particules, etc., qu'elle n'en est consciente. En fait, une grande partie de la pensée de l'Esprit-Saint nous est communiquée dans ces petits mots. Il en est ainsi ici, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, notre Seigneur compare l'envoi qu'il donne maintenant à ses disciples à celui que son Père lui a donné. Recherchons certaines de ces analogies. Il était le représentant du caractère de son Père. En fait, dans son sens le plus élevé, le caractère de la divinité n'aurait jamais pu être totalement compris par la créature, à moins que Christ ne soit apparu en tant qu'homme. Mais ajouté au déploiement des attributs divins que Christ manifestait, le nom de son Père, son caractère et son honneur étaient toujours présents à son esprit et sa pensée, et il les montrait et les préservait dans toute leur pureté et leur attrait. « J'honore mon Père » furent ses paroles aux Juifs, selon Saint Jean chapitre 8, verset 49. « Et des siècles auparavant, il avait été prédit à son sujet, « Je l'ai établi comme témoin. » Ésaïe, chapitre 55, verset 4. Il était donc le représentant, le témoin et le gardien du caractère de son Père dans le monde. Comment montrait-il tout cela? Principalement par sa vie. Ses paroles étaient pleines de puissance, mais sa vie était encore plus puissante. Et il devrait en être de même pour nous, chers amis. Il est dit du prophète Samuel, « Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. « Si nous souhaitons le même témoignage, nos actions doivent être en accord avec nos paroles. » Nous devons être des témoins pour Christ dans les deux domaines. Que nous le faisions ou non, eh bien notre influence doit être ressentie. Et cette influence est à la fois consciente et inconsciente. Oui, consciente dans nos efforts vigilants pour parler et pour agir, ceci pour la gloire de Christ, et inconsciente en ce qui concerne notre vrai caractère. Notre influence sera donc comme nous sommes. Il est dit d'un des hommes les plus saints que l'Église du Christ ait produite, qu'il ne s'est pas mis sur une plateforme de vertu, vertu suprême, par quelques déclarations de son cru, mais que par une union remarquable de pureté et de charité, il a profondément impressionné tous ceux qui s'approchaient de lui. Et ceci, puisque c'était naturel, influença la pensée populaire, tellement sensible, et ceci avec raison, en tout temps, à la puissance de la courtoisie et de la grâce. Les gens voyaient en lui un véritable représentant de Christ et tous, par conséquent, étaient vraiment émus. Être le témoin du Sauveur invisible, est un grand honneur placé sur tous ses disciples. Recherchons-nous cela, chers amis? Si c'est le cas, nous sommes heureux. Cela signifie beaucoup de choses. Le renoncement à soi dans le monde, dans l'Église, dans la famille, dans les transactions de la vie, dans les immeubles, des comptables, aussi bien que dans le secret de sa chambre, eh bien cela est important, n'est-ce pas, d'avoir un bon témoignage. C'était du reste la remarque réprobatrice d'un grand homme de Dieu, John Wesley, de grande éminence en tant qu'écrivain public. Je connais des hommes et des femmes qui se piquent de leur séparation d'avec le monde parce que on ne les voit jamais au cinéma ou dans une salle de musique techno dont la convoitise, le manque de sincérité et les discours sévères déclarent qu'il trempe dans la mondanité jusqu'au cou. Ce dénonciateur sévère de l'usage licencieux de ce membre indiscipliné qui est la langue, eh bien Saint-Jacques est à peine pris en compte par la majorité des chrétiens. Les paroles qui devraient être un témoignage pour Christ sont trop souvent dépensées dans ce jugement des autres, qu'il déclare cependant être une mauvaise manière de parler de la loi et un jugement de celle-ci. D'un tel fait, il déclare « Tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge ». Jacques, chapitre 4, verset 11. Élevons-nous donc vers notre grand appel en Jésus-Christ, ni découragés par les échecs du passé, ni par les difficultés présentes. Christ est tout puissant, et son plaisir est de donner de la puissance à son peuple. Fortifie-toi et prends courage, était l'ordre dans l'Ancien Testament, selon Josué, chapitre 1, verset 6. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, selon Galates, chapitre 5, verset 1. Et tenez donc ferme, nous a-t-il dit, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 14, ce sont donc les ordres du Nouveau Testament. Nous sommes sans aucun doute en Christ, et ce dont nous avons principalement besoin, c'est de le croire. Alors, notre témoignage sera positif, contraignant et absolument pur. Sa présence n'est pas une théorie, même pas dans une promesse, mais un fait réel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 verset 20. Et là où il est, il y a la paix, Il y a la lumière, la liberté, la joie, la puissance et la réussite. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous sommes unis à Christ dans un sens spirituel aussi intimement que si nous étions littéralement chairs de sa chair. Notre troisième thème, eh bien, c'est l'Église étrangère. Voyez-vous, j'ai oublié de vous dire que nous avons là Proverbe chapitre 2 verset 15, l'Église étrangère. Oui, le grand homme de Dieu, qui était Spurgeon, raconta un jour à ses étudiants que le livre des Proverbes est le chant préféré dans lequel ceux qui se trouvent spirituels folâtrent. Et je veux éviter le piège d'interpréter faussement l'enseignement de l'Ancien Testament. Néanmoins, il me semble qu'il existe de vastes principes exposés dans Proverbe 2, verset 16 jusqu'au verset 19, par lesquels nous puissions juger l'utilité d'une grande partie de la vie de l'Église de notre époque. Ce point de vue est soutenu par l'évêque Ellicott. Dans un commentaire sur ces versets, il écrit « En plus du sens littéral de ce passage, les commentateurs ont très souvent trouvé dedans un avertissement spirituel contre l'idolâtrie et l'apostasie. Il est si souvent parlé de l'union d'Israël à Dieu dans les prophètes en la comparant à un mariage » et de leur rejet de sa personne pour les idoles. Ils l'ont rejeté pour les idoles comme d'un adultère. Qu'il se peut que ce passage porte ce sens supplémentaire, en particulier puisque Jérémie, chapitre 3, verset 4, a emprunté cette même phrase « ami de sa jeunesse » pour un passage dans lequel il réprouve les Juifs pour leur infidélité. L'image est également très courante dans le Nouveau Testament pour décrire Christ et l'Église. Matthew Henry, il dit « De nombreux interprètes érudits pensent que cette mise en garde contre la femme étrangère en plus du sens littéral, doit être comprise de manière figurée comme un avertissement contre l'idolâtrie. Je ne peux donc pas me tromper beaucoup si, pour citer Spurgeon de nouveau, je cherche à être guidé par la retenue et le jugement en évitant de spiritualiser au maximum ce fameux passage. » Quatre choses sont dites à propos de cette étrangère. Premièrement, elle emploie des paroles doucereuses. Deuxièmement, elle oublie l'ami de sa jeunesse. Troisièmement, elle oublie l'alliance de Dieu. Et quatrièmement, elle mène vers des sentiers de mort, dont il y a peu d'espoir de revenir. En ces jours où la tendance est de conseiller vivement la nécessité d'une union d'action avec tous les chrétiens de nom, j'ai bien dit les chrétiens de nom, sans tenir compte des convictions doctrinales, il se peut que ces qualités de l'étrangère puissent jeter une certaine lumière sur ce que nous devrions éviter en choisissant nos associations d'église et des liens de communion étroite avec eux. Examinons donc la première caractéristique, celle de l'usage de la flatterie. Le même avertissement est répété en Proverbe chapitre 5 verset 3. car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Et dans Proverbe chapitre 6, verset 24, il est dit « La langue doucereuse de l'étrangère ». Dans Proverbe 7, verset 5, « L'étrangère qui emploie des paroles doucereuses ». Et dans Proverbe chapitre 22, verset 14, « La bouche des étrangères est une fosse profonde et celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Est-il injuste de dire que ceci implique que nous devrions être prudents et éviter tout ce qui a tendance à soutenir notre confiance en nous-mêmes et qui nous donne l'impression que nous pouvons, même par notre propre force, avec l'aide de Dieu, faire absolument tout ce qui, on peut dire, ce qui n'est pas du tout acceptable à Dieu. Pouvons-nous vraiment faire n'importe quoi? Et lorsque nous cherchons à savoir comment une nature morale consciencieuse, zélée contre les corruptions et les compromis du monde, pouvait être possédée par l'orgueil, l'autosuffisance et l'exultation qu'il trahit, l'explication est qu'il ignorait profondément la condition naturelle de l'homme ainsi que la nécessité indispensable de la grâce régénératrice de l'Esprit Saint. Assez curieusement, la flatterie peut courir, on peut dire, dans un double harnais avec les opérations les plus drastiques, avec les abus sociaux et même avec les dénonciations de la négligence et des échecs des chrétiens de nom. L'impression est si facilement donnée que nous sommes les personnes capables d'arranger les choses, que nous n'avons qu'à nous employer à un certain grand effort ou héroïsme de conduite chrétienne dont nous sommes en fait incapables par nos propres efforts, mais que nous avons en vue de réaliser pour le temps qu'il reste. Comme il est facile de vivre dans nos rêves qui ne deviennent jamais réalité, la bénédiction que nous suivons est toujours comme une mince volute, hors de notre portée. Et pourtant, nous sommes souvent encouragés à continuer la poursuite. Le dictionnaire anglais définit le mot flatter par apaiser, par les louanges et des attentions serviles, plaire avec de faux espoirs ou une louange excessive. Le prédicateur qui se prête à une présomption charitable, par exemple, en disant que toute sa congrégation est composée de merveilleux chrétiens, simplement parce qu'il fréquente un lieu de culte. Il est ou elle est coupable de plaire par de faux espoirs ou une louange excessive, et il n'est pas digne de nous conduire dans les choses de Dieu. Car un tel homme ou femme peut même être direct lorsque il dénonce nos échecs, mais ensuite il continue de nous faire sentir que cela ne tient qu'à nous. Au lieu, voyez-vous, de ramener sans relâche vers l'œuvre de Christ au calvaire pour nous et au ministère essentiel du Saint-Esprit en nous, que nous soyons convertis ou inconvertis, il n'y a rien que nous puissions faire pour nous-mêmes, sauf de nous confier totalement sur l'aide de l'autre, c'est-à-dire Dieu. Cela nous humilie jusque dans la poussière. Mais c'est le seul terrain sur lequel Dieu viendra à notre rencontre et agira pour nous. L'Église qui prospère grâce à la flatterie est une Église étrangère, une Église étrangère où l'on ne trouve pas de communion en Christ. Nous devrions éviter de tels serviteurs et de telles églises. Il est possible que l'apôtre Paul ait eu cela à l'esprit lorsqu'il écrivait à Timothée à propos des dangers des derniers temps, et qu'il l'avertit à propos de ceux qui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et ensuite d'ajouter la phrase incisive « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Le pouvoir de la flatterie est très grand. N'importe quelle expérience ordinaire de la vie le confirme. Proverbe chapitre 7 verset 21 nous dit à ce sujet « Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. » Nous aimons tous secrètement être flattés. Et le chrétien de nom, qui a grandi habitué à la flatterie aveugle de la chair, est la personne la plus difficile à atteindre avec la vérité spirituelle. Une bouche flatteuse, dit le prédicateur, à un autre endroit, il a dit, provoque quoi ? Elle provoque la ruine. Oui, la ruine de l'âme, évidemment, et de l'esprit. Le psalmiste prie dans le psaume, chapitre 12, verset 2, « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Ensuite, il continue immédiatement, à la fois par une mise en accusation et une phrase « On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Voilà quelque chose qui entraîne son propre jugement. Dieu n'aura rien à voir avec la flatterie. » Saint Paul écrit à propos de son ministère à Thessalonique, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Oh oui, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 6. Vous pouvez le noter, et ces choses que l'apôtre était si consciencieux d'éviter font partie du stock dans le commerce de l'étrangère et appartient au genre de vie d'Église qui n'a aucun enracinement dans la grâce de Dieu. Le révérend Fox a dit un jour, « Ce serment qui laisse ses auditeurs doucement sereins, comme un lac lisse, ne reflétant que lui-même, elle est une injure à l'Église de Dieu. » Ce n'est pas que nous ayons à trouver constamment des fautes et à répandre des injures envers nos auditeurs, mais le véritable ministère de l'Esprit de Dieu nous dépouillera, croyez-moi, de toute confiance en soi et nous amènera dans une humilité joyeuse au pied de notre grand prêtre à l'unique endroit où nous trouvons la miséricorde et la grâce pour être secourus dans nos besoins, selon Hébreux chapitre 4, verset 16. Il est donc sage d'être profondément suspicieux de tout ce qui a une odeur de flatterie, parce qu'elle nous drogue avant que nous en pensions et que nous en prenions surtout conscience. Voyez-vous, il se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf, nous est-il dit, qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtier. Notez Proverbe chapitre 7, verset 22. Et ce proverbe fait paraître la description de l'effet de la flatterie sur tous ceux qui ne sont pas sur leur garde. Nous devons sûrement en tenir compte quant à la seconde caractéristique de l'étrangère. Elle oublie même l'ami de sa jeunesse. C'est pas mal. N'est-il pas vrai qu'une église après l'autre s'est écartée de ses fondements d'origine? Un pasteur a dit un jour ceci. J'ai eu le privilège de donner une allocution à un rassemblement méthodiste. Le président, à la rencontre de la soirée, a dit dans ses remarques d'introduction, qu'au cours de l'après-midi, ils avaient écouté une certaine doctrine méthodiste totalement démodée. Dans le volume intitulé « 44 sermons » par John Wesley, les titres de certains de ces sermons sont « Le salut par la foi »,« La justification par la foi », le témoignage de l'Esprit Saint, les marques de la nouvelle naissance, le grand privilège de ceux qui sont nés de Dieu, le péché originel, etc., etc. Tels étaient les sujets vitaux au méthodisme dans sa jeunesse. Comment sont-ils dans l'ensemble traités dans le méthodisme à l'heure actuelle? Je vous en pose la question. Je me demande combien d'églises anglicanes il y a à l'heure actuelle dans lesquelles de tels articles tels que les suivants, qui sont traités comme étant d'une importance fondamentale et constituent le guide de l'enseignement et de la vie. Eh bien, l'article 6 nous dit « L'Écriture sainte contient toutes les choses qui sont nécessaires au salut. » Est-ce qu'il croit encore en tout cela? De sorte que tout ce qui n'est pas lu dans ces pages et qui ne peut pas être ainsi prouvé ne doit être exigé d'aucun homme, qu'il devrait être cru comme étant un article de la foi ou duquel l'on puisse penser qu'il est requis ou nécessaire au salut. Article 11, elle dit « Nous sommes estimés justes devant Dieu uniquement pour le mérite de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ par la foi et non pas par nos propres œuvres ou mérites. » Ça, c'est correct, hein? Article 18, qu'ils devront aussi être maudits, ceux qui ont la présomption de dire que tout homme sera sauvé par la loi ou la secte qu'il confesse, de sorte qu'il veille à conformer sa vie selon cette loi et la lumière de la nature. Car l'Écriture sainte ne nous propose que le nom de Jésus-Christ par lequel les hommes doivent être sauvés. Combien y a-t-il, chers amis de Baptiste, qui s'éloignent avec Bunyan de la ville de la destruction et qui exècre le vide de la foire aux vanités? Hein? Combien qui disent du fond de leur cœur, avec William Carey, « Vers de terre misérable, pauvre et impuissant, sur vos doux bras je tombe. » Combien de luthériens, par exemple, y a-t-il qui se tienne là où s'est tenu Luther? Combien d'officiers et de soldats de l'armée du salut pour qui les enseignements ardents de William Booth font vraiment autorité? Auparavant, on pourrait aller d'église en église, hein? On peut dire que maintenant, je m'excuse, on pourrait vraiment aller d'église en église et on pourrait continuer de poser de telles questions. Une dénomination après l'autre aurait des problèmes. Comme les pharisiens du temps jadis, il y a de nombreuses personnes dans notre vie d'église moderne qui bâtissent les tombeaux des prophètes et ornent les sépulcres des justes, selon saint Matthieu chapitre 23, verset 29, et qui, en même temps, oublient la direction qu'ils doivent donner. C'est là la marque de l'étrangère. Et si nous voulons être fidèles à Dieu, nous ferions mieux de faire attention à l'avertissement du prédicateur, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Proverbe chapitre 7, versets 25 à 27. Les fondations de la véritable Église sont invariables. Le troisième signe qui nous est donné dans ce passage remarquable par lequel nous pouvons reconnaître l'étrangère est qu'elle oublie même l'alliance de son Dieu. À plusieurs reprises, en effet, à plusieurs reprises, on peut bien le dire, Dieu a inculpé le peuple d'Israël d'une telle infraction à l'Alliance. Lorsque les nations païennes demandent pourquoi de grands jugements tombent sur Israël, la raison nous en est donnée, parce qu'ils ont oublié l'Alliance de l'Éternel, et bien le Dieu de leur père, ils l'ont même oublié, qu'il a donc conclu avec eux, il avait conclu avec eux une alliance, mais ils l'ont oublié, jeté de côté, et bien ils ont vraiment écopé une punition. Et je répète, voyez-vous, lorsque les nations païennes demandent pourquoi de grands jugements tombent sur Israël, eh bien la raison nous en est donnée, parce que ils ont oublié l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il a conclu avec eux, cette alliance, le jour où il les a fait, rappelez-vous, sortir d'Égypte, car ils sont allés même auprès d'autres dieux. C'était terrible, pour les servir, ces autres dieux, et leur rendre un culte, c'est encore pire, des dieux qu'ils ne connaissaient même pas et qu'ils ne leur avaient pas donnés. Les prophètes Jérémie, Ézéchiel, Osée et Malachie, tous imputent cette même accusation à ce fameux peuple. Dans le Nouveau Testament, l'enseignement à propos de l'alliance de Dieu avec le croyant est très clair et simple. Dans chaque évangile synoptique, que ce soit Matthieu chapitre 26 verset 28, que ce soit Marc chapitre 14 verset 24, et que ce soit Luc chapitre 22 verset 20, nous lisons comment le Sauveur institua le grand service central de l'Église chrétienne, le service de la communion. Il déclara catégoriquement que le vin est un sceau permanent et un rappel de la nouvelle alliance ratifiée dans le sang de Christ, son précieux sang versé au calvaire. Ceci est expressément confirmé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. Hébreux chapitre 8, verset 10 à 13, et chapitre 10, verset 14 à 17, nous donnent là les termes de cette nouvelle alliance en ce qui concerne Dieu. L'alliance d'un effort humain en réponse à la loi imposée extérieurement et mise de côté, et la nouvelle alliance de la soumission envers l'œuvre gracieuse de Dieu par son esprit au plus profond du cœur, de la pensée et de la volonté a été introduite. Le sceau de cette nouvelle alliance n'est rien d'autre que la vie livrée de Dieu homme Jésus-Christ sur la croix. Comment, chers amis, pouvons-nous ériger des autels aux faux dieux, des œuvres humaines, les faux dieux des œuvres humaines, que ce soit des Bouddhas, que ce soit n'importe quelle autre philosophie religieuse, car par une seule offrande, est-il dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, nous est-il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 14. L'évangile chrétien attire l'attention uniquement sur l'œuvre de Christ pour nous à la croix et son corollaire, son œuvre en nous par son Esprit Saint. Tout ce qui est inférieur à ceci cesse totalement d'être chrétien. Un avertissement sévère, chers amis, à l'encontre de la mise de côté de l'alliance de la grâce de Dieu apparaît également en Hébreux chapitre 10, versets 28 et 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit Saint de la grâce? Andrew Murray nous dit de ces versets: lorsque je m'approche de l'eau dans laquelle je veux me laver, je trouve qu'elle est sale, et je la rejette, et je la jette carrément. Christ appelle le pécheur à se laver dans son sang précieux et à être purifié. Il le rejette, comme étant une chose impure. Oui, le sang qui parle de l'amour de Jésus-Christ, du pardon des péchés et du ciel ouvert est rejeté et mis de côté aujourd'hui. Ah oui, quel terrible péché! Si ceux qui rejetaient le sang des taureaux et des boucs mouraient sans aucune miséricorde, combien davantage ceux qui méprisent le Fils de Dieu aujourd'hui? Quel terrible spectacle que cette Église vêtue gauchement d'innombrables activités, idées et traditions des hommes, ou même alliance de Dieu, où l'alliance de Dieu est oubliée, et l'émerveillement incessant du grand sacrifice expiatoire et soit minimisé, soit mis de côté comme étant une théologie totalement démodée. Voilà cette fameuse étrangère qui déploie ses efforts extrêmes pour attirer l'attention sur elle. Sa philosophie, vous pouvez me croire, cette philosophie, elle est dangereuse. Les eaux volées sont douces, et le pain mangé en secret est agréable. La gloire du salut est volée au Sauveur, et il n'y a pas de réelle reconnaissance de celui à qui aucun secret n'est caché, et devant sa sainteté, le péché ne peut paraître. Nous devons donc fuir l'étrangère, croyez-moi, comme nous le ferions d'une grande plaie, d'un virus terrible. Finalement, la maison de l'étrangère penche vers la mort, hein, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Il y a des églises, et un grand nombre d'entre elles, vers lesquelles envoyer nos convertis revient carrément à les expédier vers des sentiers de mort. Rien de semblant, même vaguement, à une vie spirituelle n'est vu dans ces fameuses églises. Il se peut même, ou il se peut pas, qu'il y ait en elles une certaine mesure d'enseignement solide, pourquoi pas. Il se peut que la Bible soit lue régulièrement, ou il se peut même qu'elle soit considérée comme étant largement dépassée, ça c'est autre chose, et largement démodée. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun ou aucune vie là-dedans. Les racines de cette église sont profondément ancrées dans les choses matérielles de l'époque. Certaines d'entre elles seraient plus honnêtes de se donner pour nom un club social. La mort, nous dit le professeur Drummond, c'est cela de ne plus être en correspondance avec l'environnement. L'église morte ou individu ou l'individu qui est simplement un chrétien de nom et pas autre chose sont beaucoup plus sensibles aux choses matérielles de cette vie et très conscients de ce monde, de ses attraits et de ses problèmes. Je fus un jour associé à une église où l'un des membres appelait une croyance dans la prière exaucée comme étant une chose magique. Et un autre se moquait carrément avec un air méprisant de la croyance en un retour personnel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme étant la religion d'un vieil homme. Ce qui est triste, voyez-vous, c'est que ces hommes étant morts aux choses spirituelles, et hors correspondance, hein, avec la vérité de Dieu éteint, totalement éteint, et malgré ceci autorisés, ils sont autorisés et encouragés à exercer une fonction dans l'Église. Et combien c'est difficile pour ceux qui, par l'éducation et une longue association, ont leurs pieds vraiment bien plantés dans la maison qui penche carrément vers la mort, de saisir la simplicité glorieuse de l'Évangile. Oui, on peut dire que c'est décourageant, on peut bien le dire. Voyez-vous, je terminerai en disant simplement que ces symptômes sont bien trop évidents pour être mis de côté à la légère. Nous ne pouvons pas, chers amis, ne pas en tenir compte et éviter de faire du tort à nos propres âmes. Mais, demanderez-vous, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de tout ceci? Êtes-vous en train d'enseigner que nous devrions quitter nos églises? Non. Mais absolument pas, j'ai jamais dit cela. Cependant, j'ai un peu le sentiment qu'il est peu probable que l'étrangère nous fasse bon accueil si nous voulons être totalement vrais envers l'alliance.